Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a entamé ce mercredi 30 mars une visite officielle en Algérie. Ce déplacement intervient au lendemain de sa rencontre dans le désert du Negev en Palestine occupée avec les ministres des quatre pays arabes normalisateurs, Émirats arabes unis, Bahreïn, Égypte et Maroc, d'une escale chez le voisin de l'Ouest avec lequel l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques et en pleine guerre en Europe de l'Est, dans laquelle Washington se positionne comme le principal belligérant contre Moscou par l'Ukraine interposée. Il est fort à parier que les États-Unis tentent de faire pression sur l'Algérie pour la pousser à injecter plus de gaz à une Europe en situation de grande précarité énergétique. Quels sont les objectifs de cette visite? Xavier Dupré, économiste et analyste politique, nous répond.
Alors, je pense que la mission des États-Unis, la mission de M. Blinken à Alger, est déjà fortement compromise. Et on peut déjà anticiper un scénario qui ne sera pas positif pour les intérêts occidentaux et, y compris d'ailleurs, les intérêts très immédiats de l'Europe occidentale pour ses fournitures de gaz. Puisque il faut quand même se rendre compte que aujourd'hui, l'Algérie n'est pas prête techniquement, d'un point de vue technique, à augmenter sa production de gaz. L'Algérie est au maximum de ses capacités de production aujourd'hui. Cela a été confirmé par toute une série de médias algériens, et notamment le quotidien Achourouk, et on en voit d'autres également. Aujourd'hui, l'Algérie est au maximum de ses capacités de production. Ça, c'est un premier élément, il est technique. Il y a une deuxième question, avant même qu'on aborde la problématique des relations avec Moscou, c'est que, tout de même, dans la région, depuis 2 ans, on note un positionnement fort de la part de l'entité sioniste. C'est une évidence. Il y a ce rapprochement avec le Maroc. Ce rapprochement a par ailleurs eu un impact géopolitique locale dans la région qui est extrêmement déstructurant, puisque le Front Polisario s'est retrouvé quelque part nié dans ses prétentions légitimes et complètement conformes au droit international à l'autodétermination, puisque les États-Unis ont reconnu, on se rappelle, c'était sous Donald Trump, la marocanité du Sahara occidental. Il s'en est suivi, à titre de rétorsion, eh bien, la fermeture d'un gazoduc qui passait par le Maroc pour aller vers l'Espagne de la part de l'Algérie. Tant que la problématique sahraoui n'est pas réglée de manière conforme au droit international, eh bien, il y a très peu de chances aujourd'hui pour que Alger rouvre ce gazoduc. Donc, quelque part, si vous voulez, là c'est un point où on peut vérifier que les États-Unis sont quelque part dans la région un pompier pyromane, puisqu'ils ont complètement ouvert la voie à une précarisation des fournitures énergétiques de l'Europe, alors que Donald Trump, à une époque, s'est une fois de plus comporté en aventurier. Et de ce que je vois aujourd'hui, c'est que le gouvernement espagnol ne semble pas non plus donner envie aux Algériens de rouvrir ce gazoduc, puisque là encore, on a vu il y a peu de temps le Premier ministre Sanchez s'aligner le petit doigt sur la couture du pantalon sur les positions du Maroc concernant le Sahara occidental. En clair, l'Espagne disait bon, un statut d'autonomie peut-être, mais en tout cas l'indépendance et le droit à l'autodétermination, jamais. C'est absolument contraire au droit international. Enfin, j'observe, d'un point de vue moins économique cette fois-ci, que globalement, si l'on regarde les votes aux Nations Unies, il y a des nations africaines qui sont aujourd'hui dirigées par un mouvement de libération nationale. Tous les pays dirigés par un mouvement de libération nationale, tous, ont refusé ou se sont abstenus donc ils ont refusé de condamner dans les faits la Russie. C'est encore le cas de l'Algérie. L'Algérie est toujours dirigée par le FLN, qui est un mouvement de libération nationale. C'est partie de l'histoire. Donc, si vous voulez, il y a une mémoire historique dans des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique également. Il y a une mémoire historique de ce qu'à l'époque où la décolonisation se passait très mal, les seuls à les avoir soutenus à l'époque, eh bien, c'était les Soviétiques. Il en est resté des liens forts avec Moscou, et dans le cas de l'Algérie, notamment, ça passe par des contrats d'armement. Donc, je ne vois pas l'Algérie, au moment où les tensions sont au plus fort, au plus haut, avec Rabat, avec le Maroc, se couper de ses fournitures d'armes. Ça me semble très, très hypothétique, voire même carrément utopique. Enfin, je dois quand même rappeler ceci concernant la précarité énergétique de l'Europe. On peut de toute manière aujourd'hui se dire que globalement, il y a une politique des États-Unis par l'Ukraine qui est globalement contraire à nos intérêts géostratégiques et géoéconomiques profonds, à nous autres Européens, voilà, Européens de l'Ouest, mais même du centre aussi, je veux dire, même l'Europe centrale est concernée par la dépendance au gaz russe. Je crois qu'il va falloir aujourd'hui que l'on pose des choix qui pérennisent nos intérêts bien compris. Parce que, globalement, depuis quelques semaines, mais là c'est l'économiste qui vous parle, on voit des missions européennes, des États-Unis, un petit peu aux quatre coins du monde pour essayer de trouver des excédents de gaz. Et partout, la réponse, elle est la même. Et elle sera la même à Alger, et elle serait la même à Doha, et elle serait la même n'importe où dans le monde. Il est impossible de remplacer, comme ça, du jour au lendemain, 40% de la consommation européenne de gaz. 40% de nos importations proviennent, ici dans l'Union européenne, de la Russie. Cela représente un volume annuel de 155 milliards de mètres cubes. On ne trouve pas 155 milliards de mètres cubes de gaz comme cela. Et par ailleurs, nos infrastructures gazières ne sont pas conçues pour une espèce de passage, si vous voulez, généralisé vers le gaz liquéfié. En Allemagne, il y a très peu d'infrastructures, d'installations qui permettent de remettre à l'état gazeux eh bien, le gaz qui a été liquéfié, qui serait importé via des méthaniers. Donc nous sommes à la fois dépendants sur un plan quantitatif, et il faut le reconnaître, et nous sommes aussi dépendants d'un point de vue, du point de vue des infrastructures et de la technique. Tant que nous n'aurons pas profondément intégré cet état de dépendance, eh bien nous serons condamnés en Europe à avoir, à connaître une précarité énergétique tout à fait déstabilisante. Il faut quand même se rendre... Je ne donne pas deux ans, si dans deux ans, il n'y a pas une solution structurelle qui ramène les cours, le mégawattheure de gaz, sur la place à Amsterdam, dans la bourse à Amsterdam, aux alentours de 60-70 euros le mégawattheure, si on continue à être au-delà des 100 euros le mégawattheure, il y aura des troubles sociaux en Europe occidentale. C'est une évidence. Je pense qu'il est grand temps que nos dirigeants en tiennent compte. Je l'espère, je n'y crois plus beaucoup, mais malgré tout, je maintiens le constat parce qu'il est fondé scientifiquement sur des chiffres et une évaluation de l'état des techniques.